La coiffeuse aux accents de nos sens, de l'innocence. Toujours ce petit jeu de mots qui démarre cette émission étrange, née suite à l'initiative de Milena Volutchenko, la cofondatrice du festival Blues en Aveyron et la créatrice du parfum Gentiane Caviar d'Aubrac. Posez vos affaires, détendez-vous et mettez-vous à l'aise devant la coiffeuse aux accents de nos sens, redoutablement installée au milieu de notre studio d'enregistrement. Elle est là pour vous guider dans votre vie. Notre émission a pour but réveiller vos esprits et vous amener vers d'autres plateaux de votre conscience, si vous voulez bien nous suivre. Cachez vos peignes, nous ne sommes pas là pour être beaux, nous sommes ici pour être vrais. Je vous invite donc à vous décoiffer soigneusement et aller à l'essentiel, vers la magie de vos sens, olfactifs, auditifs, gustatifs, visuels, tactiles et celui sixième. Si, recherchez et espérez. La magie de chaque accent de ce meuble démarre par le bout du nez. À chacun ses secrets, ses émotions et ses souvenirs que l'on respire, qu'on retient et qu'on place dans les tiroirs de notre âme. Le nez, c'est notre premier cerveau. Ouvrir le nez, c'est donner l'accès à tous nos sens, y compris le sixième, le fameux chemin vers la volupté intérieure inavouée. Cela arrive le plus souvent quand on ne s'y attend pas. On croise la d'aventure d'un fleuriste au printemps et soudain, une bouffée de gens qui nous ramènent à notre enfance. Un certain jour de Pâques ou de Noël, si le fleuriste a astucieusement su intégrer quelques brins de sapin dans les jonquilles. Enfin, un gousse de vanille, on se souvient du baiser maternel, tout embaumé de ces fragrances inoubliables qui vont nous poursuivre ensuite toute notre vie. Seuls les miroirs de notre enfance, les armoires de nos grandes-mères, les porte-manteaux de nos grands-parents s'en souviennent. Aujourd'hui, en présence de Monsieur Marc Duguay-Bouillet, bonjour Marc. Vous présidez l'association de sauvegarde d'un site aveyronnais remarquable, le prieuré des grands montants du sauvage. Vous me corrigez si je le prononce mal. Et puis Fabrice Sellery,
bonjour
Fabrice, qui nous fera voyager musicalement comme d'habitude.
Je vais essayer, oui.
On fera aussi un éloge au site remarquable aveyronnais, dévoilant le mystère des constructions des églises romanes. Marc, vous m'en corrigez, s'il le faut. Alors, l'ordre monastique des Grands Montants a été fondé au XIIe siècle, en Limousin, par les disciples d'un ermite auvergnat, Étienne de Thiers. Nous sommes au milieu du XIe siècle. Étienne est le fils unique du vicomte de Thiers. À la mort de ses parents, il abandonne ses biens et son titre pour se retirer comme ermite dans le bois de Muret, près d'Ambazac, Haute-Vienne. Aux disciples qui le rejoignent, Étienne enseigne essentiellement l'évangile. Son disciple préféré est issu d'une famille noble de Chalus. Toujours en Limousin, Hugues de la Certa, il rejoint Étienne de Muret en 1111. Et il devient donc son disciple préféré et de mémoire, il dicta en 1156 les enseignements d'Étienne qui survirent de base à la règle de Grand Montant. La règle de Grand Montant rédigée entre 1140 et 1150 comprend 65 articles avec pour principe l'obéissance à Dieu et au pasteur qui dirige la communauté, la vie dans la solitude d'un lieu retiré, la prière dans la contemplation et le détachement des biens matériels, le refus de la possession de terres hors de l'enclos, le refus de toute fonction paroissiale et évangélisatrice et la non-tenue d'archives pour ne pas plaider injustice, la non-possession de bétail ni de revenus agricoles, l'accueil des pauvres avec bienfaisance dans leur maison, la règle fixée bien sûr les conditions d'entrée dans l'ordre, avoir plus de 20 ans, n'être ni infirme ni lépreux, avoir abandonné ses terres détenues à l'extérieur, la règle de Grandmont fixait également les modalités de la vie communautaire avec l'obligation du silence. Comment acheter ou vendre, emprunter ou prêter de l'argent, recevoir des dons ou distribuer des aumônes, donner le soin aux malades, etc. Deux types de frères devaient cohabiter dans chaque maison. Les clercs voués exclusivement aux louanges divines et les convers chargés du temporel afin d'éviter aux clercs les soucis des choses extérieures. Avez-vous des choses à rajouter, Marc ?
Oui, vous avez oublié de dire que l'ordre était interdit aux femmes, ce qui est normal puisqu'il est interdit de parler. Donc...
Et... Formidable.
Mais c'était une règle qui était très dure, parce que les conditions de vie étaient très difficiles. Ils n'avaient pas le droit de se chauffer. Il y avait deux seules cheminées dans les prieurés. La cheminée dans la cuisine, pour la nourriture, et la cheminée dans le bâtiment des hôtes. Mais aucune dans le dortoir. Alors nous, au prieuré du Sauvage, on a une cheminée qui a été construite au XVIIe siècle. Alors la règle était très dure, mais elle a dû être assouplie donc au XIVe siècle, parce que quand même c'était ils arrivaient plus à recruter. Et puis il y avait commençait à y avoir un certain laxisme. Donc le pape Jean XXII a assoupli la règle. Mais malgré ça, l'ordre a périclité. Il y a eu donc la guerre de Cent Ans, la guerre de religion, la peste noire. Donc petit à petit, l'ordre a recruté de moins en moins. Et au XVIIIe siècle, en 1772, l'ordre est aboli sous Louis XV. L'ordre donc aboli, les biens de Grand Montain ont été distribués aux évêchés correspondants. Puis peu de temps après, bon, la Révolution, et donc les prieurés ont été vendus comme biens nationaux, et notamment donc le prieuré du Sauvage a été vendu à une famille de Balsac, la famille Guizot, qui l'a acheté pour les vignes, et puis qui s'est servi des bâtiments comme carrière de pierre, qui a démoli l'église et les parties des cuisines et du réfectoire pour faire les grands bâtiments qu'il y a au-dessus du prieuré. Le prieuré est toujours resté dans la famille Guizot. Ils sont les descendants de la famille Guizot, les Paléric, qui habitaient d'ailleurs dans la rue à côté. Quels sont les propriétaires? Le prieuré est tombé en ruine. Et donc, c'est la famille Paléric qui était à l'initiative de cette restauration. Ils ont fait appel à l'architecte des bâtiments de France, M. Cosse. Et puis, M. Cosse, avec une équipe de scouts, les compagnons du devoir. Donc, l'association est née avec comme président fondateur, le docteur Arnal, qui habitait la rue à côté. Et donc, le prieuré a été sauvé. Les premières années, c'était des travaux de défrichement, et puis petit à petit, de reconstruction. Et d'année en année, le prieuré se fait une santé. Et puis maintenant, on peut y accueillir, le faire vivre, faire des concerts, des pièces de théâtre, des expositions, des repas, des réunions.
Il me semble que vous avez même enregistré...
Oui, on a même enregistré un disque dans la salle capitulaire. On a enregistré les suites de Bach, voilà, pour violoncelle seule. Et puis, donc, on a fait des concerts. Notamment, on a été honoré l'an dernier par la présence de Fabrice, qui est venu et qui va revenir cette année. Je commence à annoncer le concert. Le 8 octobre, c'est rigolo parce que Fabrice va donner un concert de
Woody.
Et trois semaines avant, on organise au prieuré du Sauvage un concert de musique du Moyen-Âge. Le thème, c'est la musique qui était composée au moment de la construction du prieuré. Même avant, c'était la musique qui a été écrite au début à la cour d'Aliénor d'Aquitaine, qui a été une des fondatrices. Enfin, quand Aliénor d'Aquitaine est morte, le prieuré n'était pas encore construit. Mais c'est Aliénor d'Aquitaine et son mari, Henri de Plantagenet, le roi d'Angleterre et le roi, qui ont favorisé l'essor des Grands Montains. Parce que Henri de, quand il a épousé Aliénor d'Aquitaine, est devenu a possédé l'Aquitaine. Et il s'est rendu compte qu'en implantant des monastères, il allait asseoir son pouvoir. Et c'est lui qui a donc développé donc les Grands Montains, l'ordre de Grandmont. Et en réaction, Louis VII, son rival, qui était le premier mari
Aliénor d'Aquitaine était mariée au roi de France.
À Louis VII.
Elle a été mariée au roi de France, puis au roi d'Angleterre.
Et après au roi d'Angleterre. Voilà. Oui.
Et ça a été la cause de la guerre de Cent Ans, plus tard.
Et oui.
Ça vous parle, Fabrice.
Et Louis VII, donc, en réaction aussi, c'est donc à favoriser les Grands Montains aussi de l'autre côté de la frontière, quoi, si vous voulez. L'ordre de Grandmont, donc, était puissant au XIIe, XIIIe siècle.
Donc ils ont joué sur les deux tableaux, en fait.
Et oui, ils ont joué sur les deux tableaux, oui. Mais pour vous dire, comme il était puissant, quand Henri II a fait assassiner comment il s'appelle
Je sais pas, il a fait assassiner.
Il a fait assassiner pas tellement de monde, mais celui, l'archevêque de Canterbury.
Ah oui, oui, tout à fait. Oui.
Thomas Becket. Ouais. Il a fait assassiner Thomas Becket. Il a dû devenir demander pardon.
Oui, il a dû s'excuser. S'excuser. À genoux, après.
Et
ouais,
il a fait, il a fallu qu'il aille à Gramont.
D'accord.
Il était allé à Gramont, voir l'abbé de Gramont pour s'excuser. De, voilà. Voilà. On lui a demandé en pénitence de venir.
Il y a
voilà.
des belles histoires.
Hein. Voilà. Bon, enfin, je parle.
Et qui traînent à les parages.
Oui. Bon. Voilà.
Vous présidez cette association qui, son nom.
Alors son nom, c'est les Amis du Prieuré du Sauvage, qui a pour but donc de restaurer ce prieuré et maintenant de le faire vivre, parce que maintenant on a restauré les, disons les trois quarts de ce qu'on doit faire, parce que maintenant on est limité, si vous voulez, on peut pas restaurer plus puisqu'on n'a pas les documents. La DRAC nous impose de restaurer en fonction des documents. Et comme il n'y a pas d'archives.
À l'authentique.
Comme y a dans pas la règle des Grands Montants, il n'y a pas d'archives, donc on est coincé.
Et Marc, et pourquoi son nom, Grand Montant?
Ah oui, parce que finalement, les disciples plutôt d'Étienne étaient donc à Muret, dans le bois de Muret, près d'Ambazac, comme vous l'avez dit. Mais les bénédictins qui étaient à côté ont pris ombrage de l'importance qu'ils avaient et les ont chassés. Et c'est le comte de Limoges qui les a déplacés, qui leur a donné les terres sur le plateau de Gramont.
De le nom de l'ordre.
Le Gramontin, voilà.
Et est-ce que vous pouvez nous dire quand est-ce qu'on peut visiter, le prieuré à tout moment ou il y a périodes spécifiques dédiées aux visites?
À partir du mois de mai, le prieuré est ouvert tous les dimanches, visite gratuite.
À n'importe quelle heure ou
Non, faut ouvrable quoi. Donc
il faut réserver.
Non, on vient comme ça. Alors les groupes, si des groupes veulent venir, là il faut réserver par contre.
Mais c'est à partir de 10h du matin.
Matin à partir de 10h à midi et de 2h à 6h à 18h.
Donc très bien. Bah, je vous remercie pour ces informations.
Je vous remercie d'avoir parlé du festival.
Oui.
On peut rappeler la date parce que moi-même, je m'en souviens plus.
Ah oui, un festival, c'est le 8 octobre.
Le 8 octobre, c'est ça. Donc, je jouerai.
C'est une des dates du festival, précise. Oui.
Je crois que ce sera la clôture d'ailleurs.
Mais on reviendra sur ce sujet un
là-dessus,
petit peu
donc
plus tard.
Là-dessus, donc, il y aura.
Bien sûr, on fera une émission spéciale
de Boogie Woogie le 8 octobre.
Oui. Dédiée à ce sujet.
Au prieuré du sauvage, justement.
D'accord. Donc, on va.
On peut dire un petit mot sur. Sur la géographie sacrée, qu'on appelle sacrée. Voilà, parce que au Moyen-Âge, les critères du choix d'un lieu de culte n'étaient pas forcément les mêmes que ceux d'un lieu de vie. Par exemple, on pouvait bâtir près d'une source, etc. Ou près d'une terre fertile, suivant que ce soit un lieu de vie ou un lieu de culte. Mais ils relevaient tous de la même science. Alors, c'est une science, mais aujourd'hui, elle est rangée sur les étagères de l'ésotérisme, un petit peu dans les mêmes cases que le récentisme ou le platisme, hein, c'est-à-dire qu'elle n'est plus prise au sérieux, mais elle est tout de même encore maîtrisée par certaines personnes. Moi, j'ai une personne qui est venue dans mon jardin pour déterminer où étaient les lieux telluriques pour ne pas que je plante à ces endroits-là. Donc en fait, en quoi ça consiste? Ces critères de choix de lieux répondaient à la connaissance de ce qu'on peut appeler une géographie sacrée, avec des réseaux qui parcourent la planète. Et les points sacrés sont reliés entre eux par un certain maillage. Et donc les constructions sont érigées généralement sur des croisements. Mais il faut que ce soit des croisements positifs, d'après ce que j'ai compris, parce qu'il y a aussi des croisements négatifs.
Négatifs, tout à fait. Ouais. Et là, c'est comme ça qu'on va introduire le sujet de géomagnétisme. Est-ce que vous voulez nous donner quelques précisions sur ce sujet, Marc? Tout à fait.
Oui, enfin, bon, je disais, donc, de nombreux ouvrages ont décrit la beauté de l'architecture des églises romanes, mais peu d'études, ce que disait Fabrice, ont été développées sur l'art qui consistait à intégrer dans leur construction la connaissance de géomagnétisme. Nous négligeons totalement aujourd'hui la connaissance intuitive que les hommes possédaient depuis plusieurs millénaires dans le domaine de géomagnétisme. Alors c'est pourquoi je souhaite vous sensibiliser aujourd'hui sur l'influence du magnétisme, sur le vivant et sur les choix architecturaux des lieux particuliers constitués par leur implantation, l'orientation et les proportions révélées à travers les églises romanes. Le prieuré du sauvage en fait partie. D'ailleurs, on a une dame qui est venue il y a 2 ou 3 ans et qui faisait du magnétisme et qui nous a dit des choses un peu étonnantes, qu'il s'était passé des scènes violentes. Et effectivement, elle nous a dit qu'il y a eu une scène violente qui s'était passée au sauvage. Et effectivement, il y a eu un des prieurs qui a été chassé par les moines à un moment. Au XIVe siècle, le prieuré a été détruit.
Elle l'a senti.
Et sans qu'on lui a dit. Ce lieu, il dégage quelque chose d'extrêmement puissant.
C'est vrai qu'il y a des. D'ailleurs, on le remarque, c'est qu'il y a des endroits où on se sent bien et d'autres où on ne se sent pas bien.
Exactement. Et c'est lié à ce phénomène de géomagnétisme.
Oui, parce que je crois qu'il y a des réseaux nocifs, il y a des réseaux neutres et des réseaux positifs.
Ah oui, très certainement. D'ailleurs, il y a des endroits vraiment, on a envie d'en partir et puis d'autres, on a envie de rester. A priori, on a envie d'y rester. Et alors, c'était certainement un site de culte gaulois ou gallo-romain, parce qu'on a trouvé beaucoup de poteries gallo-romaines, au priori sauvage.
Donc ça suppose que cette connaissance du magnétisme était déjà en vigueur à l'époque
des
druides.
Très certainement, parce que d'ailleurs, il y a des églises qui sont implantées sur des lieux qui étaient des lieux de culte anciens. On a remarqué, en analysant le magnétisme, qu'il y a des zones beaucoup plus fortes.
Oui, alors on dit que l'orientation du prieuré de Sauvage est la même que celle des pyramides. Vous pouvez me le confirmer?
Ça, je sais. Oui, je sais pas. Ouais.
Bah, disons que c'est parce que ça se calcule sur ce fameux croisement, croisement des méridiens. Et en fait, il paraît que je me suis documenté que le prieuré du Sauvage est placé sur la latitude et la longitude en relation avec les pyramides de Khéops.
Parce que par contre, il a une particularité, parce que tous les prieurés grand-montains sont construits sur le même type, avec à l'est la salle capitulaire et le dortoir, et à l'ouest les bâtiments où on recevait les pèlerins. Par contre, l'église était au nord, et la cuisine et le réfectoire étaient au sud. Et au prieuré de Grammont, c'est l'inverse. L'église est au sud et c'est l'inverse. Alors qu'il y a 160 prieurés grammontains en France, tous les autres sont... voilà.
Disons que ce phénomène, et le prieuré du Sauvage s'étend sur tout l'Aveyron jusqu'au Périgord, ce phénomène, c'est des lieux de croisement d'importants réseaux cosmotelluriques. Et c'est ce principe que beaucoup d'églises romanes, et je crois même sans exception, ont été conçues. On peut dire que l'on se trouve sur un lieu fortement énergétique. C'est comme ça qu'on définit ce phénomène qui est habité depuis les temps les plus reculés. On y trouve des grottes de Lascaux, par exemple. Ce site fait partie et rentre dans cette logique de géomagnétisme également, mais aussi des habitants de Magdaléniens et du Mustérien bien plus ancien. C'est également ici que sont venus s'installer dans les années 70 la plupart des écoles de bouddhisme tibétain. De par sa position géographique placée sur les franges résiduelles du double réseau d'or reliant Chartres à Toulouse, cet endroit est en relation énergétique aux lieux tels que Bourges, Sens, Reims, le Mont-Saint-Michel, le Puy-en-Velay, mais aussi avec des lieux d'apparition mariale tels Lourdes et La Salette. Marc, les anciens bâtisseurs connaissaient
plusieurs types de réseaux qui quadrillaient la terre et parlaient de
la boue y vivre.
On mesure aujourd'hui différents réseaux en rapport avec l'influence des métaux connus dans le noyau de la terre. Les réseaux telluriques, petit rappel, le centre de la terre, le noyau, est composé de magma. La vitesse de rotation de la terre et la force d'inertie du magma en rapport avec sa densité engendre un retard du noyau qui va provoquer un frottement par rapport à l'écorce terrestre. Ces vibrations vont monter jusqu'à la surface de la Terre, traverser les différentes couches du sol et envoyer des infos des métaux contenus dans la Terre. Chaque métal a son faisceau de rayonnement que les scientifiques savent aujourd'hui reconnaître en fonction des longueurs d'onde. Il y a 7 familles de métaux, certains ont des rayonnements nocifs, d'autres sont neutres et quelques-uns sont particulièrement bénéfiques. Les réseaux nocifs. Le réseau d'Hartmann, appelé aussi réseau global, est le réseau du nickel. Il se présente comme un quadrillage de murs de 21 cm d'épaisseur environ, dont les mailles sont espacées de 2 mètres dans le sens nord-sud et 2,50 mètres dans le sens est-ouest. Il est orienté sur les pôles magnétiques, mais ce filet peut être perturbé par un accident géologique, faille, cours d'eau, ou une pollution humaine, ondes télé, portables, micro-ondes, etc. Les croisements sont les endroits où se concentrent au maximum les radiations. Le réseau Curie, ou réseau diagonal, est celui du fer. Il est orienté à 45 degrés par rapport au premier. Son maillage peut varier de 3 à 8 mètres. Les murs sont épais de 40 cm. Là aussi, les lieux les plus nocifs sont les points de croisement. Il arrive qu'un croisement Hartmann se superpose à un croisement Curie et nous avons un point d'énergie très bas. Les réseaux neutres, Les deux premiers réseaux sont les plus gênants pour l'homme. Les réseaux de zinc, cobalt, manganèse sont beaucoup moins nocifs. Les réseaux de l'aluminium et du silicium sont totalement neutres. Le platine a 36 méridiens et parallèles et entretient des réseaux sacrés. Le cuivre est abondant et neutre. Orienté nord-sud et est-ouest, son épaisseur est d'environ 30 cm. Les réseaux positifs, ce sont l'or et l'argent. Le réseau de l'or émet 72 rayons nord-sud et 72 est-ouest qui déterminent 72 méridiens et autant de parallèles. Ce sont les flux sacrés fixes, caractérisés par une énergie positive de forte intensité. La largeur du flux de l'or est de 72 cm. Ceci détermine 26 croisements sur la Terre. Tous les hauts lieux sacrés sont ces croisements. L'argent émet lui aussi 72 rayonnements, superposés à ceux de l'or, mais en diagonale. L'argent est neutre, il sert à activer l'or, sa largeur est de 36 cm. Le premier réseau que les bâtisseurs prenaient en compte est le réseau de Hartmann. Le maître d'œuvre organisait sa construction de façon à le repousser dans les murs. C'est déroutant lorsqu'on pratique la recherche avec des baguettes parce que l'on va trouver un réseau fantôme. Il ne reste en fait dans l'édifice qu'une fréquence porteuse, comme en radio, mais sans information, une longueur d'onde disponible. On ne va retrouver une information sur la porteuse du réseau Hartmann qu'en deux points, dits de terre, au niveau des fronts baptismaux et à la croisée des transepts où se trouve la pierre des morts, c'est-à-dire l'endroit où l'on pose le cercueil pour la dernière office, parce que l'on est de la poussière et que nous y retournerons. La pierre des morts est polarisée de façon à ce que l'énergie soit renvoyée vers le haut, comme pour un dolmen. L'âme peut ainsi monter au ciel. La date de la construction jouait le rôle également important. La date était choisie en fonction de l'énergie que l'on voulait manifester. Les anciens savaient qu'à chaque jour correspond une énergie, symbolisée autrefois par un saint. Certains moments clés étaient importants pour la réception des forces de l'univers. Construire un lieu tel jour revenait à l'orienter en fonction des forces de la nature, lui donner sa teinte énergétique et son orientation spirituelle.
Et on pourrait peut-être aussi illustrer toute cette information musicalement. Il me semble, Marc, que vous êtes extrêmement engagé dans la vie musicale de ce lieu sacré, de ce lieu insolite. Vous organisez les musiques d'été. Parlez-en un petit peu.
Oui, alors Musique d'été, c'est une association qu'on a fondée en 1982. Alors le but de l'association, c'était d'organiser des concerts dans des sites architecturaux intéressants du Rouergue, de façon à faire rayonner la musique, faire découvrir la musique et faire découvrir ces sites architecturaux. On a commencé par l'église de Saint-Austremoine, et puis alors après, donc, beaucoup d'églises, de châteaux du Rouergue. Je vais en citer quelques-uns, Saint-Pierre de Bessuyjoux, l'église de Perse, le château d'Estaing, le château d'Ibourine, le château d'Olems, l'église de Souiri, voilà. Bon, et puis alors le prieuré du Sauvage. Chaque année, on organise un concert en septembre au prieuré.
Et il y a aussi un phénomène qui s'appelle l'hypoacoustique.
Ah oui, alors l'hypoacoustique, il n'y en a pas au prieuré. Il y en a.
Mais qu'est-ce que c'est exactement?
Alors, c'est des trucs que l'on peut remarquer dans la voussure d'un édifice. En fait, il y a des poteries qui sont
intégrées
dans les murs. Alors pendant longtemps, on ne sait pas si c'était des objets de décoration, des trucs pour les oiseaux, puis maintenant on sait que ce sont des pots acoustiques. Mais je crois qu'il y a qu'une vingtaine d'églises en France qui ont des pots acoustiques, et dans l'Aveyron, il y en a une, l'église d'Anglard. Et effectivement, l'église d'Anglard de Bertholène, à côté de Bertholène.
Elle est visitable ?
Oui. Une très belle église. On donne un concert chaque année. D'ailleurs, il y aura un concert le 26 août.
Ah, très bien.
Le 26 août, un concert de Bach et ses contemporains. Et là, c'est vrai que les musiciens qui viennent sont étonnés par l'acoustique qu'il y a dans cette église.
Donc, il faut aussi organiser un concert, il faut chercher des églises avec des pots acoustiques.
Ah, mais là, c'est difficile parce qu'il n'y en a pas beaucoup.
Oui. Malheureusement. Ouais. Et donc, et vous, Fabrice, qu'est-ce que vous nous proposez aujourd'hui pour illustrer ce sujet musicalement?
Je vous propose un gospel. À ce moment-là, on peut faire l'écoute de Down by the Riverside.
Très bien. Et peut-être un petit clin d'œil sur qu'est-ce que c'est gospel et les origines de cette musique.
En réalité, au départ, ce ne sont pas forcément des chants sacrés. On a beaucoup de gospel, comme par exemple Amazing Grace, qui sont au départ des chants profanes. Par exemple, l'air de Amazing Grace, on l'entend à la cornemuse dans les stades de football en Écosse aujourd'hui, comme un chant profane, qu'il a été bien avant de devenir un chant sacré, puis d'être repris par les Afro-Américains comme chant sacré aux États-Unis. Voilà, donc on a beaucoup d'air, on peut dire, folklorique ou du patrimoine profane, qui sont devenus des gospels ensuite. Parce que la plupart des gospels sont en réalité des chansons qui n'ont pas été écrites dans un but sacré par un maître de chapelle. Et en revanche, la polyphonie qu'on y a rajoutée, les chœurs, etc., ont quelque chose de sacré dans l'harmonisation et puis dans l'esprit, évidemment. Voilà, ce qui fait que...
Parce que parfois on dit que le chant de gospel, c'est une forme de prière.
Oui, oui, tout à fait. Et puis aujourd'hui, on s'y réfère beaucoup parce que dans les chants sacrés de la chrétienté actuellement, là, je parle de... si on écoute cette émission dans 1000 ans, donc je redonne la date, nous sommes en 2023. Actuellement, on peut dire que...
Mars 2023.
Les chanteurs de gospel... donne l'impression d'avoir plus la foi que les autres. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, il y a une énergie qui passe, qui est peut-être plus forte en spiritualité dans les autres chants sacrés qui ont parfois été écrits spécialement pour le culte. Voyez. Donc c'est assez troublant, mais l'explication est simple. C'est que les populations qui chantent le gospel et qui l'ont créé, eh bien, se sont reconnues dans les récits de la Bible assez tardivement, puisqu'ils ont été évangélisés il y a seulement un siècle et demi. Voilà, donc la foi est encore a encore le souffle des débuts. Ça peut être une piste d'explication. Et puis on a cette énergie de la polyrythmie africaine qui sous-tend toute la musique afro-américaine.
Bah, rajoutons cette énergie à l'énergie de géomagnétisme et ça nous donne des bons moments à passer et avoir des ressentis assez exceptionnels. Et c'est ce que vous proposez d'ailleurs dans le cadre de vos initiatives musicales. On ne badine donc pas avec le géomagnétisme des églises romanes. Soyez attentifs sur nos ondes. Donc, merci d'avoir resté avec nous jusqu'au
peut-on
bout.
Peut-on redonner la date du prochain concert?
Le 8
que
octobre.
Je donnerai au prieuré de Sauvage.
Le 8 d'octobre, il me semble bien que ce que vous envisagez de réserver toute la journée pour pouvoir visiter la prieuré, et puis le concert aura lieu le soir.
Dans l'après-midi, je pense que c'est dans l'après-midi, c'est un dimanche, à 18h30.
Parce que c'est un dimanche.
C'est un dimanche, voilà, et il s'agira de duel de Boogie Woogie, donc il y aura plusieurs pianos, plusieurs pianistes.
Belle surprise, en perspective. Donc voilà, je remercie d'avoir resté avec nous jusqu'au bout et merci également aux invités. Merci infiniment à David à la technique et on termine, comme c'était promis, avec Down by the Riverside et son interprétation musicale unique proposée par Fabrice Ullery, qu'on peut trouver sur son disque Fabrice Ullery et le pianiste en solo, que vous pouvez cliquer en faisant la recherche de son blog Le Canard du Pianiste. Et je vous dis à la prochaine.
FabriceUllery.com
également. Voilà.